Chapitre 2. En ces jours de délaissement fiévreux, de dégoût passionné et d'attente mystique, où elle tendait les mains vers un sauveur inconnu, Jacqueline rencontra Olivier. Madame Langeais n'avait pas manqué d'inviter Christophe, qui était, cet hiver, le musicien à la mode. Christophe était venu, et, suivant son habitude, il ne s'était pas mis en frais. Madame Langeais ne l'en avait pas moins trouvé charmant. Il pouvait tout se permettre, pendant qu'il était à la mode. On le trouverait toujours charmant. C'était l'affaire de quelques mois. Jacqueline se montra moins charmée. Le seul fait que Christophe fût loué par certaines gens suffisait à la mettre en défiance. Au reste, la brusquerie de Christophe, sa façon de parler fort, sa gaieté la blessaient. Dans son état d'esprit, la joie de vivre lui semblait grossière. Elle cherchait le clair-obscur mélancolique de l'âme, et elle se figurait qu'elle l'aimait. Il faisait trop jour en Christophe. Mais comme elle rusait avec lui, il parla d'Olivier. Il éprouvait le besoin d'associer son ami à tout ce qui lui arrivait d'heureux. Il en parla si bien que Jacqueline, troublée par la vision d'une âme qui s'accordait avec sa propre pensée, le fit aussi inviter. Olivier n'accepta pas tout de suite, ce qui permit à Christophe et à Jacqueline d'achever de lui à loisir un portrait imaginaire auquel il fallut bien qu'il ressemblât lorsqu'enfin il se décida à venir. Il vint, mais ne parla guère. Il n'avait pas besoin de parler. Ses yeux intelligents, son sourire, la finesse de ses manières, la tranquillité qui l'enveloppait et qui rayonnait, devaient séduire Jacqueline. Christophe, par contraste, faisait valoir Olivier. Elle n'en montrait rien, par peur du sentiment qui naissait. Elle continuait de ne causer qu'avec Christophe, mais c'était d'Olivier. Christophe, trop heureux de parler de son ami, ne s'apercevait pas du plaisir que Jacqueline trouvait à ce sujet d'entretien. Il parlait aussi de lui-même, et elle l'écoutait avec complaisance, bien que cela ne l'intéressât nullement. Puis, sans en avoir l'air, elle ramenait la conversation à des épisodes de sa vie où se trouvait Olivier. Les gentillesses de Jacqueline étaient dangereuses pour un homme qui ne se méfiait point. Sans y penser, Christophe s'éprenait d'elle. Il trouvait du plaisir à revenir. Il soignait sa toilette, et un sentiment qu'il connaissait bien recommençait de mêler sa langueur riante à tout ce qu'il songeait. Olivier s'était épris aussi, et dès les premiers jours. Il se croyait négligé et souffrait en silence. Christophe augmentait son mal en lui racontant joyeusement ses entretiens avec Jacqueline. L'idée ne venait pas à Olivier qu'il pût plaire à Jacqueline. Bien qu'à vivre auprès de Christophe, il eût acquis plus d'optimisme, il se défiait de lui. Il se voyait avec des yeux trop véridiques, il ne pouvait croire qu'il serait jamais aimé. Qui donc serait digne de l'être, si c'était pour ses mérites, et non pour ceux du magique et indulgent amour? Un soir qu'il était invité chez les Langeais, il sentit qu'il serait trop malheureux en revoyant l'indifférente Jacqueline, et, prétextant la fatigue, il dit à Christophe d'aller sans lui. Christophe, qui ne soupçonnait rien, s'en alla tout joyeux. Dans son naïf égoïsme, il ne pensait qu'au plaisir d'avoir Jacqueline à lui tout seul. Il n'eut pas lieu de s'en réjouir longtemps. À la nouvelle qu'Olivier ne viendrait point, Jacqueline prit aussitôt un air maussade, irrité, ennuyé, déconcerté. Elle n'éprouvait plus aucun désir de plaire. Elle n'écoutait pas Christophe, répondait au hasard. Et il la vit, avec humiliation, étouffer un bâillement énervé. Elle avait envie de pleurer. Brusquement, elle sortit au milieu de la soirée, et elle ne reparut point. Christophe s'en retourna déconfit. Le long du chemin, il cherchait à s'expliquer ce brusque revirement. Quelques lueurs de la vérité commençaient à lui apparaître. À la maison, Olivier l'attendait. Il demanda, d'un air qu'il tâchait de rendre indifférent, des nouvelles de la soirée. Christophe lui raconta sa déconvenue. À mesure qu'il parlait, il voyait le visage d'Olivier s'éclairer. « Et cette fatigue, dit-il, pourquoi ne t'es-tu pas couché ? » « Oh, je vais mieux, » fit Olivier, « je ne suis plus là du tout. »«
Oui, je crois, » dit Christophe Narquois, « que cela t'a fait beaucoup de bien de ne pas venir. »
Il le regarda affectueusement, malicieusement, s'en alla dans sa chambre, et là, quand il fut seul, il se mit à rire, rire tout bas, jusqu'aux larmes.
« La matine, » pensait-il, « elle se moquait de moi. Lui aussi me trompait, comme ils cachaient leur jeu. »
À partir de ce moment, il arracha de son cœur toute pensée personnelle à l'égard de Jacqueline. Et, comme une brave mère poule qui couve jalousement son œuf, il couva le roman des deux petits amants. Sans avoir l'air de connaître leurs secrets à tous deux, et sans le livrer, de l'un à l'autre, il les aida à leur insu. Il crut de son devoir, gravement, d'étudier le caractère de Jacqueline pour voir si Olivier pourrait être heureux avec elle. Et, comme il était maladroit, il agaçait Jacqueline par les questions saugrenues qu'il lui posait sur ses goûts, sur sa moralité.
« Voilà un imbécile. De quoi se mêle-t-il ? » pensait Jacqueline furieuse en lui tournant le dos.
Et Olivier s'épanouissait de voir que Jacqueline ne faisait plus attention à Christophe. Et Christophe s'épanouissait de voir qu'Olivier était heureux. Sa joie s'étalait même d'une façon beaucoup plus bruyante que celle d'Olivier. Et comme elle ne s'expliquait point, Jacqueline, qui ne se doutait pas que Christophe voyait plus clair dans leur amour qu'elle n'y voyait elle-même, le trouvait insupportable. Elle ne pouvait comprendre qu'Olivier se fût entiché d'un ami aussi vulgaire et aussi encombrant. Le bon Christophe la devinait. Il trouvait un plaisir malicieux à la faire enrager. Et puis il se retirait à l'écart, prétextant des travaux pour refuser les invitations des Langeais et laisser seuls ensemble Jacqueline et Olivier. Il n'était pas sans inquiétude cependant pour l'avenir. Il s'attribuait une grande responsabilité dans le mariage qui se préparait. Et il se tourmentait, car il voyait assez juste en Jacqueline, et il redoutait bien des choses. Sa richesse d'abord, son éducation, son milieu, et surtout sa faiblesse. Il se rappelait son ancienne amie Colette. Sans doute Jacqueline était plus vraie, plus franche, plus passionnée. Il y avait dans ce petit être une ardente aspiration vers une vie courageuse, un désir presque héroïque. Mais ce n'était pas tout de désirer, pensait Christophe, qui se souvenait d'une polissonnerie de l'ami Diderot. Il faut avoir les reins solides. Il voulait avertir Olivier du danger. Mais quand il voyait Olivier revenir de chez Jacqueline, les yeux baignés de joie, il n'avait plus le courage de parler. Il pensait, « Les pauvres petits sont heureux, ne troublons pas leur bonheur. » Peu à peu, son affection pour Olivier lui fit partager la confiance de son ami. Il se rassurait. Il finit par croire que Jacqueline était telle qu'Olivier la voyait et qu'elle voulait se voir elle-même. Elle avait si bonne volonté. Elle aimait Olivier pour tout ce qu'il avait de différent d'elle et de son monde. Parce qu'il était pauvre, parce qu'il était intransigeant dans ses idées morales, parce qu'il était maladroit dans le monde. Elle aimait d'une façon si pure et si entière qu'elle eût voulu être pauvre comme lui et presque par moments, oui, presque devenir laide, afin d'être plus sûre d'être aimée pour elle-même, pour l'amour dont son cœur était plein et dont il avait faim. Ah, certains jours, quand il était là, elle se sentait pâlir et ses mains tremblaient. Elle affectait de railler son émotion, elle feignait de s'occuper d'autre chose, de le regarder à peine. Elle parlait avec ironie. Mais soudain, elle s'interrompait. Elle se sauvait dans sa chambre. Et là, toute porte close, le rideau baissé sur la fenêtre, elle restait assise, les genoux serrés, les coudes rentrés contre son ventre, les bras en croix sur la poitrine, comprimant les battements de son cœur. Elle restait ainsi, ramassée sur elle-même, sans un souffle. Elle n'osait pas bouger, de peur qu'au moindre geste, le bonheur ne s'enfuit. Sur son corps, en silence, elle étreignait l'amour. Maintenant, Christophe se passionnait pour le succès d'Olivier. Il s'occupait de lui maternellement, surveillait sa toilette, prétendait lui donner des conseils sur la façon de s'habiller, lui faisait, comment, ses nœuds de cravate. Olivier, patient, se laissait faire, quitte à renouer sa cravate dans l'escalier lorsque Christophe n'était plus là. Il souriait, mais il était touché de cette grande affection. Intimidé par son amour, il n'était pas sûr de lui, et demandait volontiers conseil à Christophe. Il lui contait ses visites. Christophe, aussi ému que lui,
passait quelquefois des heures, la nuit, à chercher les moyens d'aplanir le chemin à l'amour de son ami. Ce fut dans le parc de la Villa des Langeais, aux environs de Paris, dans un petit pays sur la lisière de la forêt de l'Isle-Adam, qu'Olivier et Jacqueline eurent l'entretien qui décida de leur vie. Christophe accompagnait son ami, mais il avait trouvé un harmonium dans la maison, et il se mit à jouer, laissant les amoureux se promener en paix. À vrai dire, il ne le souhaitait point. Il craignait d'être seul. Jacqueline était silencieuse et un peu hostile. Déjà, à la dernière visite, Olivier avait senti un changement dans ses manières, une froideur subite, des regards qui paraissaient étrangers, durs, presque ennemis. Il en avait été glacé. Il n'osait s'expliquer avec elle. Il craignait trop de recevoir de celle qu'il aimait une parole cruelle. Il trembla de voir Christophe s'éloigner. Il lui semblait que sa présence le garantissait seul du coup qui allait le frapper. Jacqueline n'aimait pas moins Olivier. Elle l'aimait beaucoup plus. C'était ce qui la rendait hostile. Cet amour, avec lequel naguère elle avait joué, qu'elle avait tant appelé, il était là devant elle. Elle le voyait s'ouvrir devant ses pas comme un gouffre, et elle se rejetait en arrière, effrayée. Elle ne comprenait plus. Elle se demandait « Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Alors elle regardait Olivier, de ce regard qui le faisait souffrir, et elle pensait « Qui est cet homme ?» Et elle ne savait pas. « Pourquoi est-ce que je l'aime ?» Elle ne savait pas. « Est-ce que je l'aime ?» Elle ne savait pas. Elle ne savait pas, mais elle savait que pourtant elle était prise. L'amour la tenait. Elle allait se perdre en lui, se perdre tout entière, sa volonté, son indépendance, son égoïsme, ses rêves d'avenir, tout englouti dans ce monstre. Et elle se raidissait avec colère. Elle éprouvait par moments, pour Olivier, un sentiment presque haineux. Ils allèrent jusqu'à l'extrémité du parc, dans le jardin potager, que séparait des pelouses un rideau de grands arbres. Ils marchaient à petits pas au milieu des allées, que bordaient des buissons de groseilliers aux grappes rouges et blondes, et des plates-bandes de fraises dont la laine emplissait l'air. On était au mois de juin, mais les orages avaient refroidi le temps. Le ciel était gris, la lumière à demi éteinte. Les nuages bas se mouvaient pesamment, tout d'une masse, charriés par le vent. De ce grand vent lointain, rien n'arrivait sur la terre. Pas une feuille ne remuait. Une grande mélancolie enveloppait les choses et leur cœur. Et du fond du jardin, de la villa invisible, aux fenêtres entr'ouvertes, vinrent les sons de l'harmonium qui disait la fugue en mi bémol majeur de Jean-Sébastien Bach. Ils s'assirent côte à côte sur la margelle d'un puits, tout pâle, sans parler. Olivier vit des larmes couler sur les joues de Jacqueline. « Vous pleurez ?» murmura-t-il, les lèvres tremblantes. Ses larmes aussi coulèrent. Il lui prit la main. Elle pencha sa tête blonde sur l'épaule d'Olivier. Elle n'essayait plus de lutter. Elle était vaincue, et c'était un tel soulagement. Ils pleurèrent tout bas, écoutant la musique, sous le dais mouvant des nuées lourdes, dont le vol silencieux semblait raser la cime des arbres. Ils pensaient à tout ce qu'ils avaient souffert, qui sait, peut-être aussi à ce qu'ils souffriraient plus tard. Il est des minutes où la musique fait surgir toute la mélancolie tissée autour de la destinée d'un être. Après un moment, Jacqueline essuya ses yeux et regarda Olivier, et brusquement ils s'embrassèrent. Ô bonheur ineffable, religieux bonheur, si doux et si profond qu'il en est douloureux. Jacqueline demanda « Votre sœur vous ressemblait ?» Olivier eut un saisissement. Il dit « Pourquoi me parlez-vous d'elle ? Vous la connaissiez donc ?» Elle dit « Christophe m'a raconté. Vous avez bien souffert. » Olivier inclina la tête, trop ému pour répondre. « J'ai bien souffert aussi, » dit-elle. Elle parla de l'ami disparu, de la chère Marthe. Elle dit, le cœur gonflé, comme elle avait pleuré, pleuré à en mourir. « Vous m'aiderez, » dit-elle, d'une voix suppliante, « vous m'aiderez à vivre, à être bonne, à lui ressembler un peu. La pauvre Marthe, vous l'aimerez, vous aussi ?»« Nous les aimerons toutes deux, comme toutes deux elles s'aiment. »« Je voudrais qu'elles fussent là. »« Elles sont là. » Ils restèrent serrés l'un contre l'autre. Ils sentaient battre leur cœur. Une petite pluie fine tombait, tombait. Jacqueline frissonna. « Rentrons, » dit-elle. Sous les arbres, il faisait presque nuit. Olivier baisa la chevelure mouillée de Jacqueline. Elle releva la tête vers lui, et il sentit sur ses lèvres, pour la première fois, les lèvres amoureuses, ses lèvres de petite fille, fiévreuses, un peu gercées. Ils furent sur le point de défaillir. Tout près de la maison, ils s'arrêtèrent encore. « Comme nous étions seuls avant, » dit-il. Il avait déjà oublié Christophe. Ils se souvinrent de lui. La musique s'était tue. Ils rentrèrent. Christophe, accoudé sur l'harmonium, la tête entre ses mains, rêvait lui aussi à beaucoup de choses du passé. Quand il entendit la porte s'ouvrir, il s'éveilla de sa rêverie et leur montra son visage affectueux qu'illuminait un sourire grave et tendre. Il lut dans leurs yeux ce qui s'était passé, leur serra la main à tous deux et dit « Asseyez-vous là, je vais vous jouer quelque chose. » Ils s'assirent et il joua au piano tout ce qu'il avait dans le cœur, tout son amour pour eux. Quand ce fut fini, ils restèrent tous les trois sans parler. Puis il se leva et il les regarda. Il avait l'air si bon et tellement plus âgé et plus fort qu'eux. Pour la première fois, elle eut conscience de ce qu'il était. Il les serra dans ses bras et dit à Jacqueline « Vous l'aimerez bien, n'est-ce pas ? Vous vous aimerez bien ?» Ils furent pénétrés de reconnaissance. Mais tout de suite après, il détourna l'entretien, rit, alla à la fenêtre et sauta dans le jardin. Les jours suivants, il engagea Olivier à faire sa demande aux parents de Jacqueline. Olivier n'osait point par crainte du refus qu'il prévoyait. Christophe le pressa aussi de se mettre en quête d'une situation. À supposer qu'il fût agréé par les Langeais, il ne pouvait accepter la fortune de Jacqueline s'il ne se trouvait lui-même en état de gagner son pain. Olivier pensait comme lui, sans partager sa défiance injurieuse, un peu comique, à l'égard des mariages riches. C'était là une idée ancrée dans la tête de Christophe, que la richesse tue l'âme. Volontiers, il eût répété cette boutade d'un sage gueux à une riche oiselle qui s'inquiétait de l'au-delà. « Quoi, madame, vous avez des millions, et vous voudriez encore, par-dessus le marché, avoir une âme immortelle ?»« Méfie-toi de la femme, » disait-il à Olivier, mi-plaisant, mi-sérieux. « Méfie-toi de la femme, mais 20 fois plus de la femme riche. » La femme aime l'art, peut-être, mais elle étouffe l'artiste. La femme riche empoisonne l'un et l'autre. La richesse est une maladie, et la femme la supporte encore plus mal que l'homme. Tout riche est un être normal. Tu ris? Tu te moques de moi? Quoi, est-ce qu'un riche sait ce que c'est que la vie? Est-ce qu'il reste en communion avec la rude réalité? Est-ce qu'il sent sur sa face le souffle fauve de la misère? L'odeur du pain à gagner, de la terre à remuer? Est-ce qu'il peut comprendre? Est-ce qu'il voit seulement les êtres et les choses? Quand j'étais un petit garçon, il m'est arrivé une ou deux fois d'être emmené en promenade dans le landau du Grand-Duc. La voiture passait au milieu de prairies dont je connaissais chaque brin d'herbe, parmi des bois où je galopinais tout seul et que j'adorais. Eh bien, je ne voyais plus rien. Tous ces chers paysages étaient devenus pour moi aussi raidis, aussi empesés que les imbéciles qui me promenaient. Entre les prairies et mon cœur, il ne s'était pas seulement interposé le rideau de ces âmes gourmées. Il suffisait de ces 4 planches sous mes pieds, de cette estrade ambulante au-dessus de la nature. Pour sentir que la terre est ma mère, il me faut avoir les pieds enfoncés dans son ventre, comme le nouveau-né qui sort à la lumière. La richesse tranche le lien qui unit l'homme à la terre, et qui relie entre eux tous les fils de la terre. Et alors, comment voudrais-tu être encore un artiste? L'artiste est la voix de la terre. Un riche ne peut pas être un grand artiste. Il lui faudrait, pour l'être, 1000 fois plus de génie, dans des conditions aussi disgraciées. Même s'il y parvient, il est toujours un fruit de serre. Le grand Goethe a beau faire, son âme a des membres atrophiés. Il lui manque des organes essentiels que la richesse a tués. Toi qui n'as pas la sève d'un Goethe, tu serais dévoré par la richesse, surtout par la femme riche, que Goethe a du moins évitée. L'homme seul peut encore réagir contre le fléau. Il a en lui une brutalité native, un humus amassé d'instincts âpres et salutaires qui l'attachent à la terre. Mais la femme est livrée au poison et elle le communique aux autres. Elle se plaît à la puanteur parfumée de la richesse. Une femme qui reste saine de cœur au milieu de la fortune est un prodige, autant qu'un millionnaire qui a du génie. Et puis, je n'aime pas les monstres. Qui a plus que sa part pour vivre est un monstre, un cancer humain qui ronge les autres âmes. Olivier riait. Je ne puis pourtant pas cesser d'aimer Jacqueline parce qu'elle n'est pas pauvre, ni l'obliger à l'être pour l'amour de moi. Eh bien, si tu ne peux pas la sauver, au moins sauve-toi toi-même. Et c'est encore la meilleure façon de la sauver. Garde-toi pur, travaille. Olivier n'avait pas besoin que Christophe lui communiquât ses scrupules. Plus encore que lui, il avait l'âme chatouilleuse. Non qu'il prît au sérieux les boutades de Christophe contre l'argent. Il avait été riche lui-même, il ne détestait point la richesse, et il trouvait qu'elle allait bien à la jolie figure de Jacqueline. Mais il lui était insupportable qu'on pût mêler à l'idée de son amour un soupçon d'intérêt. Il demanda à rentrer dans l'université. Il ne pouvait plus espérer, pour l'instant, qu'un poste médiocre dans un lycée de province. C'était là un triste cadeau de noces à offrir à Jacqueline. Il lui en parla timidement. Jacqueline eut d'abord quelque peine à admettre ses raisons. Elle les attribuait à un amour-propre exagéré que Christophe lui avait mis en tête et qu'elle trouvait ridicule. N'est-il pas naturel, quand on aime, d'accepter du même cœur la fortune et l'infortune de l'aimer? Et n'est-ce pas un sentiment mesquin de se refuser à lui devoir un bienfait qui lui ferait tant de joie? Néanmoins, elle se rallia au projet d'Olivier. Ce qu'il avait d'austère et de peu plaisant fut justement ce qui la décida. Elle y trouvait une occasion de satisfaire son appétit d'héroïsme moral. Dans l'état de révolte orgueilleuse contre son milieu, que son deuil avait provoqué et que son amour exaltait, elle avait fini par nier tout ce qui dans sa nature était en contradiction avec cette ardeur mystique. Elle tendait son être comme un arc vers un idéal de vie très pur, difficile et rayonnante de bonheur. Les obstacles, la médiocrité de sa condition à venir, tout lui était joie. Que ce serait beau! Madame Langeais était trop occupée d'elle-même pour prêter grande attention à ce qui se passait autour d'elle. Depuis peu, elle ne songeait plus qu'à sa santé. Elle occupait tout son temps à soigner des maladies imaginaires, essayait d'un médecin puis d'un autre. Chacun à tour de rôle était le sauveur. Il y en avait pour 15 jours, puis c'était le tour du suivant. Elle restait des mois, au loin, dans des maisons de santé fort coûteuses, où elle exécutait avec dévotion des prescriptions puériles. Elle avait oublié sa fille et son mari. Monsieur Langeais, moins indifférent, commençait à soupçonner l'intrigue. Sa jalousie paternelle l'avertissait. Il avait pour Jacqueline cette affection énigmatique que bien des pères éprouvent pour leur fille, mais qu'ils n'avouent guère. Cette curiosité mystérieuse, voluptueuse, quasi sacrée, de revivre en des êtres de son sang qui sont soi et qui sont femme. Il y a dans ces secrets du cœur des ombres et des lueurs qu'il est sain d'ignorer. Jusqu'alors, il s'était amusé de voir sa fille rendre amoureux les petits jeunes gens. Il l'aimait ainsi, coquette, romanesque et pourtant avisée, comme il l'était. Mais quand il vit que l'aventure menaçait de devenir sérieuse, il s'inquiéta. Il commença par se moquer d'Olivier devant Jacqueline, puis il le critiqua avec une certaine âpreté. Jacqueline en rit d'abord et dit « N'en dis pas tant de mal, papa. Cela te gênerait plus tard si je devais l'épouser. » Monsieur Langeais poussa les hauts cris. Il la traita de folle. Bon moyen pour qu'elle le devint tout à fait. Il déclara qu'elle n'épouserait jamais Olivier. Elle déclara qu'elle l'épouserait. Le voile se déchira. Il découvrit qu'il ne comptait plus pour elle. Son égoïsme paternel en fut indigné. Il jura qu'Olivier et Christophe ne remettraient plus les pieds chez lui. Jacqueline s'exaspéra. Et un beau matin, Olivier, ouvrant sa porte, vit entrer en coup de vent la jeune fille, pâle et décidée, qui lui dit « Enlevez-moi, mes parents ne veulent pas. Moi je veux. Compromettez-moi. » Olivier, effaré, mais touché, n'essayait pas de discuter. Heureusement, Christophe était là. Il était le moins raisonnable à l'ordinaire. Il les raisonna. Il montra quel scandale s'ensuivrait et comme ils en souffriraient. Jacqueline, mordant sa lèvre avec colère, dit « Eh bien, nous nous tuerons après. » Loin d'effrayer Olivier, ce fut une raison pour le décider. Christophe n'eut pas peu de peine à obtenir de deux fous quelque patience. Avant d'en venir aux moyens désespérés, il fallait essayer des autres. Que Jacqueline rentrât chez elle, lui irait voir M. Langeais et plaider leur cause. Singulier avocat. Au premier mot qu'il dit, M. Langeais faillit le mettre à la porte. Puis le ridicule de la situation le frappa et il s'en amusa. Peu à peu, le sérieux de son interlocuteur, son honnêteté, sa conviction s'imposaient. Toutefois, il n'en voulait pas convenir et continuait à lui décocher des remarques ironiques. Christophe feignait de ne pas entendre, mais à certaines flèches plus cuisantes, il s'arrêtait, il se hérissait en silence. Puis il reprenait. À un moment, il posa son poing sur la table, qu'il martela, et dit « Je vous prie de croire que la visite que je fais ne m'amuse guère. Je dois me faire violence pour ne pas relever certaines de vos paroles, mais j'estime que j'ai le devoir de vous parler, et je vous parle. Oubliez-moi comme je m'oublie, et pesez ce que je dis. » M. Langeais écouta, et quand il entendit parler du projet de suicide, il haussa les épaules et fit semblant de rire. Mais il fut remué. Il était trop intelligent pour traiter de plaisanterie une pareille menace. Il savait qu'il faut compter avec l'insanité des filles amoureuses. Jadis, une de ses maîtresses, une fille rieuse et douillette, qu'il jugeait incapable d'exécuter sa forfanterie, s'était tirée sous ses yeux un coup de revolver. Elle n'en était pas morte sur le champ. Il revoyait la scène. Non, l'on est sûr de rien avec ces folles. Il eut un serrement de cœur. Elle le veut, eh bien soit, tant pis pour elle, la sotte. Certes, il aurait pu user de diplomatie, feindre de consentir, gagner du temps, détacher doucement Jacqueline d'Olivier. Mais pour cela, il eût fallu se donner plus de peine qu'il ne pouvait ou ne voulait. Et puis, il était faible. Et le seul fait qu'il eût dit violemment « non » à Jacqueline l'inclinait maintenant à dire « oui ». Après tout, que sait-on de la vie? Cette petite avait peut-être raison. La grande affaire, c'est de s'aimer. M. Langeais n'ignorait pas qu'Olivier était un garçon sérieux, qui peut-être avait du talent. Il donna son consentement. Le soir, avant le mariage, les deux amis veillèrent ensemble une partie de la nuit. Ils ne voulaient rien perdre de ces dernières heures d'un cher passé. Mais c'était du passé, déjà. Comme ces tristes adieux sur le quai d'une gare, quand l'attente se prolonge avant le départ du train. On s'obstine à rester, à regarder, à parler. Mais le cœur n'est plus là. L'ami est déjà parti. Christophe essayait de causer. Il s'arrêta au milieu d'une phrase, voyant les yeux distraits d'Olivier, et dit avec un sourire « Tu es déjà loin ». Olivier s'excusa, confus. Il était triste de se laisser distraire de ses derniers instants d'intimité. Mais Christophe lui serra la main. « Va, ne te contrains pas. Je suis heureux. Rêve, mon petit. » Ils restèrent à la fenêtre, accoudés l'un près de l'autre, regardant le jardin dans la nuit. Après quelque temps, Christophe dit à Olivier « Tu te sauves de moi? Tu crois que tu vas m'échapper? Tu penses à ta Jacqueline. Mais je vais bien t'attraper. Moi aussi, je pense à elle. » « Mon pauvre vieux, dit Olivier, et moi qui pensais à toi, et même... » Il s'arrêta, Christophe acheva sa phrase en riant, « et même qui me donnait tant de mal pour cela. » Christophe s'était fait beau, presque élégant, pour la cérémonie. Il n'y avait pas de mariage religieux. Ni Olivier, indifférent, ni Jacqueline, révoltée, n'en avait voulu. Christophe avait écrit pour la mairie un morceau symphonique. Mais au dernier moment, il y renonça, après s'être rendu compte de ce qu'est un mariage civil. Il trouvait cette cérémonie ridicule. Il faut, pour y croire, être bien dépourvu de foi et de liberté tout ensemble. Quand un vrai catholique se donne la peine de devenir libre penseur, ce n'est pas pour se faire d'un fonctionnaire de l'état civil un prêtre. Entre Dieu et la libre conscience, il n'est aucune place pour une religion de l'État. L'État enregistre, il ne lui appartient pas d'unir. Le mariage d'Olivier et de Jacqueline n'était point fait pour inspirer à Christophe le regret de sa détermination. Olivier écoutait d'un air détaché, ironique, le maire qui flagornait lourdement le jeune couple, la famille riche et les témoins décorés. Jacqueline n'écoutait pas, et furtivement, elle tirait la langue à Simone Adam qui l'épiait. Elle avait parié avec elle que cela ne lui ferait rien du tout de se marier, et elle était en train de gagner. À peine si elle songeait que c'était elle qui se mariait. Cette pensée l'amusait. Les autres posaient pour la galerie, et la galerie lorgnait. M. Langeais paradait. Si sincère que fût son affection pour sa fille, sa principale préoccupation était de noter les gens et de se demander s'il n'avait pas fait d'oubli dans sa liste de faire-part. Seul Christophe était ému. Il était à lui seul les parents, les mariés et le maire. Il couvait des yeux Olivier, qui ne le regardait point. Le soir, le jeune couple partit pour l'Italie. Christophe et M. Langeais les accompagnèrent à la gare. Ils les voyaient joyeux, sans regret, ne cachant point leur impatience d'être déjà partis. Olivier avait l'air d'un adolescent et Jacqueline d'une petite fille. Tendre mélancolie de ses départs. Le père est triste de voir sa petite emmenée par un étranger. Et pourquoi? Et pour toujours loin de lui. Mais eux n'éprouvent qu'un sentiment de délivrance enivrée. La vie n'a plus d'entrave. Plus rien ne les arrête. Ils se croient arrivés au fait. On peut mourir maintenant, on a tout, on ne craint rien. Ensuite, on voit que ce n'était qu'une étape. La route reprend et tourne autour de la montagne, et bien peu arrivent à la seconde étape. Le train les emporta dans la nuit. Christophe et M. Langeais revinrent ensemble. Christophe dit avec malice « Nous voici veufs ». M. Langeais se mit à rire. Ils se dirent au revoir, et chacun alla de son côté. Ils avaient de la peine, mais c'était un mélange de tristesse et de douceur. Seul dans sa chambre, Christophe pensait « Le meilleur de moi-même est heureux ». Rien ne fut changé à la chambre d'Olivier. Il avait été convenu entre les deux amis que jusqu'au retour d'Olivier et à sa nouvelle installation, ses meubles et ses souvenirs resteraient chez Christophe. Il était encore présent. Christophe considéra le portrait d'Antoinette, il le plaça sur sa table et il lui dit « Petite, es-tu contente ?» Il écrivait souvent, un peu trop, à Olivier. Il en recevait peu de lettres, distraites et peu à peu lointaines d'esprit. Il en était déçu, mais il se persuadait que cela devait être ainsi. Il n'avait pas d'inquiétude pour l'avenir de leur amitié. La solitude ne lui pesait point, loin de là. Il n'en avait pas assez pour son goût. Il commençait à souffrir de la protection du grand journal. Arsène Gamache avait une tendance à croire qu'il possédait un droit de propriété sur les gloires qu'il s'était donné la peine de découvrir. Il lui semblait naturel que ces gloires fussent associées à la sienne, comme Louis XIV groupait autour de son trône Molière, Lebrun et Lully. Christophe trouvait que l'auteur de l'hymne à Égire n'était pas plus impérialement encombrant pour l'art que son patron du grand journal, car le journaliste, qui ne se connaissait pas plus que l'empereur, n'en avait pas moins que lui des opinions arrêtées sur l'art. Ce qu'il n'aimait point, il n'en tolérait point l'existence. Il le décrétait mauvais et pernicieux, et il le ruinait dans l'intérêt public. Spectacle grotesque et redoutable que celui de ces brasseurs d'affaires, mal dégrossis, sans culture, qui prétendaient, par l'argent et la presse, régner non seulement sur la politique, mais sur l'esprit, et lui offraient une niche avec un collier et la pâtée, où pouvaient, sur son refus, lancer sur lui les milliers d'imbéciles dont ils avaient fait leur meute. Christophe n'était pas homme à se laisser morigéner. Il trouva fort mauvais qu'un âne se permît de lui dire ce qu'il devait faire, et ce qu'il ne devait pas faire en musique. Et il lui donna à entendre que l'art exigeait plus de préparation que la politique. Il déclina aussi, sans précautions oratoires, l'offre de mettre en musique un inepte livret dont l'auteur était un des premiers commis du journal et que le patron recommandait. Cela jeta un premier froid dans ses relations avec Gamache. Christophe n'en fut pas fâché. À peine sorti de l'obscurité, il aspirait à y rentrer. Il se trouvait exposé à ce grand jour où l'on se perd dans les autres. Trop de gens s'occupaient de lui. Il méditait ces paroles de Goethe. Lorsqu'un écrivain s'est fait remarquer par un ouvrage de mérite, le public cherche à l'empêcher d'en produire un second. Le talent qui se recueille est malgré lui traîné dans le tumulte du monde, parce que chacun croit qu'il pourra s'en approprier une parcelle. Il ferma sa porte et, dans sa maison, se rapprocha de quelques vieux amis. Il revit le ménage des Arnaud, qu'il avait un peu négligé. Madame Arnaud, qui vivait seule une partie de la journée, avait du temps pour songer aux chagrins des autres. Elle pensait au vide qu'avait dû faire chez Christophe le départ d'Olivier, et elle surmonta sa timidité pour l'inviter à dîner. Si elle eût osé, elle lui eût offert de venir de temps en temps faire la revue de son ménage. Mais la hardiesse lui manqua. Et ce fut mieux, sans doute, car Christophe n'aimait point qu'on s'occupât de lui. Mais il accepta l'invitation à dîner, et il prit l'habitude de venir régulièrement le soir chez les Arnauld. Il trouva le petit ménage toujours aussi uni, dans la même atmosphère de tendresse endolorie, plus grise encore qu'auparavant. Arnauld passait par une période de dépression morale, causée par l'usure de sa vie de professeur. Cette vie de labeur lassant qui se répète chaque jour, identique à la veille, comme une roue qui tourne sur place sans s'arrêter jamais, sans avancer jamais. Malgré sa patience, le brave homme traversait une crise de découragement. Il s'affectait de certaines injustices, il trouvait son dévouement inutile. Madame Arnauld le réconfortait avec de bonnes paroles. Elle semblait toujours aussi paisible, mais elle s'étiolait. Christophe, devant elle, félicitait Arnauld d'avoir une femme aussi raisonnable. « Oui, disait Arnauld, c'est une bonne petite. Rien ne la trouble. Elle a de la chance, et moi aussi. Si elle avait souffert de notre vie, je crois que j'aurais été perdu. » Madame Arnauld rugissait, se taisait. Puis, de sa voix posée, elle parlait d'autre chose. Les visites de Christophe produisaient leur bienfait ordinaire. Elles portaient la lumière, et lui, de son côté, avait plaisir à se réchauffer à ses cœurs excellents. Une autre amie lui vint, ou plutôt, il l'alla chercher, car, tout en désirant le connaître, elle n'eut pas fait l'effort de venir le trouver. 25 ans, musicienne, premier prix de piano au conservatoire, elle se nommait Cécile Fleury. Courte de taille, assez trapue, elle avait les sourcils épais, de beaux yeux larges au regard humide, le nez petit et gros, au bout relevé, un peu rouge, en bec de canard, des lèvres grosses, bonnes et tendres, le menton énergique, solide, gras, le front point haut, mais large. Les cheveux roulés sur la nuque en chignons abondants. Des bras forts et des mains de pianiste, grandes, aux pouces écartés, aux bouts carrés. De l'ensemble de sa personne se dégageait une impression de sève lourde, de santé rustique. Elle vivait avec sa mère qu'elle chérissait, bonne femme qui ne s'intéressait nullement à la musique, mais qui en parlait à force d'en entendre parler, et qui était au courant de tout ce qui se passait dans Musicopolis. Elle avait une vie médiocre, donnait des leçons tout le jour, et parfois des concerts dont personne ne rendait compte. Elle rentrait tard, à pied ou par l'omnibus, exténuée, de bonne humeur, et elle faisait vaillamment ses gammes et ses chapeaux, causant beaucoup, aimant rire et chantant pour un rien. Elle n'avait pas été gâtée par la vie. Elle savait le prix d'un peu de bien-être qu'on a gagné par ses propres efforts, la joie des petits plaisirs, des petits progrès imperceptibles dans sa situation ou dans son talent. Oui, si seulement elle gagnait 5 francs de plus ce mois-ci que le mois précédent, ou si elle réussissait enfin ce passage de Chopin qu'elle s'évertuait à jouer depuis des semaines, elle était contente. Son travail, qui n'était pas excessif, répondait exactement à ses aptitudes et la soulageait comme une hygiène raisonnable. Jouer, chanter, donner des leçons lui procurait une agréable sensation d'activité satisfaite, normale et régulière, en même temps qu'une aisance moyenne et un succès tranquille. Elle avait un solide appétit, mangeait bien, dormait bien et n'était jamais malade. D'esprit droit, sensé, modeste, parfaitement équilibré, elle ne se tourmentait de rien, car elle vivait dans le moment présent, sans se soucier de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y aurait après. Et comme elle était bien portante, comme sa vie semblait à l'abri des surprises du sort, elle se trouvait presque toujours heureuse. Elle avait plaisir à étudier son piano, comme à faire son ménage, ou à en causer, ou à ne rien faire. Elle savait vivre, non pas au jour le jour, elle était économe et prévoyante, mais minute par minute. Nul idéalisme ne la travaillait. Ou, si elle en avait un, il était bourgeois, tranquillement diffus dans tous ses actes et toutes ses pensées. Il consistait à aimer paisiblement ce qu'elle faisait, quoi qu'elle fît. Elle allait à l'église le dimanche, mais le sentiment religieux ne tenait presque aucune place dans sa vie. Elle admirait les exaltés, comme Christophe, qui ont une foi ou un génie, mais elle ne les enviait pas. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de leur inquiétude et de leur génie? Comment donc pouvait-elle sentir leur musique? Elle aurait eu peine à l'expliquer. mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle la sentait. Sa supériorité sur les autres virtuoses était dans son robuste équilibre physique et moral. En cette abondance de vie, sans passion personnelle, les passions étrangères trouvaient un sol riche où fleurir. Elle n'en était point troublée. Ces terribles passions qui avaient rongé l'artiste, elle les traduisait dans toute leur énergie, sans être atteinte par leur poison. Elle n'en ressentait que la force et la bonne fatigue qui suivaient. Quand c'était fini, elle était en sueur, épuisée. Elle souriait tranquillement, elle était contente. Christophe, qui l'entendit un soir, fut frappé par son jeu. Il alla lui serrer la main après le concert. Elle en fut reconnaissante. Il y avait peu de monde au concert, et elle n'était pas blasée sur les compliments. Comme elle n'avait eu ni l'habileté de s'enrôler dans une coterie musicale, ni la rouerie d'enrôler à sa suite une troupe d'adorateurs, comme elle ne cherchait à se singulariser ni par quelque exagération de technique, ni par une interprétation fantaisiste des œuvres consacrées, ni en s'arrogeant la propriété exclusive de tel ou tel grand maître, de Jean-Sébastien Bach ou de Beethoven, comme elle n'avait point de théorie sur ce qu'elle jouait, mais se contentait de jouer tout bonnement ce qu'elle sentait, nul ne faisait attention à elle, et les critiques l'ignoraient, car personne ne leur avait dit qu'elle jouait bien, et ils ne l'eussent pas trouvée d'eux-mêmes. Christophe revit souvent Cécile. Cette forte et calme fille l'attirait comme une énigme. Elle était vigoureuse et apathique. Dans son indignation qu'elle ne fût pas plus connue, il lui proposa de faire parler d'elle par ses amis du grand journal. Mais, quoiqu'elle fût bien aise qu'on la louât, elle le pria de ne faire aucune démarche. Elle ne voulait pas lutter, se donner de peine, exciter de jalousie. Elle voulait rester en paix. On ne parlait pas d'elle, tant mieux. Elle était sans envie, et la première à s'extasier sur la technique des autres virtuoses. Ni ambition, ni désir. Elle était bien trop paresseuse d'esprit. Quand elle n'était pas occupée d'un objet immédiat et précis, elle ne faisait rien, rien. Elle ne rêvait même pas. La nuit, dans son lit, elle dormait ou ne pensait à rien. Elle n'avait pas cette hantise maladive du mariage qui empoisonne la vie des filles qui tremblent de coiffer Sainte Catherine. Quand on lui demandait si elle n'aimerait pas avoir un bon mari, « Tiens donc, disait-elle, pourquoi pas 50 000 livres de rente? Il faut prendre ce qu'on a. Si on vous l'offre, tant mieux, sinon on s'en passera. Ce n'est pas une raison parce qu'on n'a pas de gâteau pour ne pas trouver bon le bon pain, surtout quand on en a mangé longtemps qui était dur. Et encore, disait la mère, il y a bien des gens qui n'en mangent pas tous les jours. » Cécile avait des raisons pour se défier des hommes. Son père, mort depuis quelques années, était faible et paresseux. Il avait fait beaucoup de tort à sa femme et aux siens. Elle avait aussi un frère qui avait mal tourné. On ne savait trop ce qu'il devenait. De loin en loin, il reparaissait pour demander de l'argent. On le craignait, on avait honte, on avait peur de ce qu'on pourrait apprendre de lui d'un jour à l'autre. Et pourtant, on l'aimait. Christophe le rencontra une fois. Il était chez Cécile. On sonna. La mère alla ouvrir. Une conversation s'éleva dans la pièce à côté, avec des éclats de voix. Cécile, qui semblait troublée, sortit à son tour et laissa Christophe seul. La discussion continuait, et la voix étrangère se faisait menaçante. Christophe crut de son devoir d'intervenir. Il ouvrit la porte. Il eut à peine le temps d'entrevoir un homme jeune et un peu contrefait qui lui tournait le dos. Cécile se jeta vers Christophe et le supplia de rentrer. Elle rentra avec lui. Ils s'assirent en silence. Dans la chambre voisine, le visiteur cria encore pendant quelques minutes, puis partit en faisant claquer la porte. Alors Cécile eut un soupir, et elle dit à Christophe, « Oui, c'est mon frère. » Christophe comprit. « Ah, dit-il, je sais. Moi aussi, j'en ai un. » Cécile lui prit la main avec une commisération affectueuse. « Vous aussi ?»« Oui, fit-il, ce sont les joies de la famille. » Cécile rit, et ils changèrent d'entretien. Non, les joies de la famille n'avaient rien d'enchanteur pour elle, et l'idée du mariage ne la fascinait point. Les hommes ne valaient pas cher. Elle trouvait des avantages à sa vie indépendante. Sa mère avait assez longtemps soupiré après cette liberté. Elle n'avait pas envie de la perdre. Le seul rêve éveillé qu'elle s'amusa à faire, c'était un jour plus tard, Dieu sait quand, de vivre à la campagne. Mais elle ne prenait pas la peine d'imaginer les détails de cette vie. Elle trouvait fatigant de penser à quelque chose d'aussi peu certain. Il valait mieux dormir ou faire sa tâche. En attendant qu'elle eût son château en Espagne, elle louait pendant l'été, dans la banlieue de Paris, une maisonnette qu'elle occupait seule avec sa mère. C'était à 20 minutes par le train. L'habitation était assez loin de la gare isolée, au milieu des terrains vagues que l'on nommait des champs, et Cécile revenait souvent tard dans la nuit. Mais elle n'avait pas peur. Elle ne croyait pas au danger. Elle avait bien un revolver, mais elle l'oubliait toujours à la maison. D'ailleurs, c'était à peine si elle eût su s'en servir. Au cours de ses visites, Christophe la faisait jouer. Il s'amusait de voir sa pénétration des œuvres musicales, surtout quand il l'avait mise d'un mot sur le chemin du sentiment à exprimer. Il s'était aperçu qu'elle avait une voix admirable. Elle ne s'en doutait point. Il l'obligea à s'exercer. Il lui fit chanter de vieux lieder allemands ou sa propre musique. Elle y prenait plaisir et faisait des progrès qui la surprenaient autant que lui. Elle était merveilleusement douée. L'étincelle musicale était tombée, par prodige, sur cette fille de petit bourgeois parisien, dénuée de sentiments artistiques. Philomèle, il la nommait ainsi, causait parfois de musique, mais toujours d'une façon pratique, jamais sentimentale. Elle ne semblait s'intéresser qu'à la technique du chant et du piano. Le plus souvent, quand elle était avec Christophe et qu'il ne jouait pas de musique, il parlait des sujets les plus bourgeois, ménage, cuisine, vie domestique. Et Christophe, qui n'eût pu supporter une minute ses conversations avec une bourgeoise, les tenait tout naturellement avec Philomèle. Ils passaient ainsi des soirées en tête-à-tête et s'aimaient sincèrement, d'une affection calme, presque froide. Un soir qu'il était venu dîner et qu'il s'était attardé à causer, plus que d'habitude, un violent orage éclata. Quand il voulut partir pour rejoindre le dernier train, la pluie, le vent faisaient rage. Elle lui dit « Mais ne vous en allez pas, vous partirez demain matin. » Il s'installa dans le petit salon sur un lit improvisé. Une mince cloison le séparait de la chambre à coucher de Cécile. Les portes ne fermaient pas. Il entendait de son lit les craquements de l'autre lit et le souffle tranquille de la jeune femme. Au bout de 5 minutes, elle était endormie, et il ne tarda pas à faire de même, sans que l'ombre d'une pensée trouble les effleurât. Dans le même temps, lui venaient d'autres amis inconnus, que commençait de lui attirer la lecture de ses œuvres. La plupart vivaient loin de Paris, ou à l'écart, et ne le rencontreraient jamais. Le succès, même grossier, a ceci de bon, il fait connaître l'artiste de milliers de braves gens, qu'il n'eût jamais atteint sans les stupides articles des journaux. Christophe entra en relation avec quelques-uns d'entre eux. C'étaient de jeunes gens isolés, menant une vie difficile, aspirant de tout leur être à un idéal dont ils n'étaient pas sûrs. Ils buvaient avidement l'âme fraternelle de Christophe. C'étaient de petites gens de province. Après avoir lu ses leaders, ils lui écrivaient, comme le vieux Schultz, se sentaient unis à lui. C'étaient des artistes pauvres, un compositeur entre autres, qui ne pouvaient arriver non seulement au succès, mais à s'exprimer eux-mêmes. Ils étaient tout heureux que leur pensée se réalisât par Christophe. Et les plus chers de tous, peut-être, ceux qui lui écrivaient sans dire leur nom. Plus libres ainsi de parler, ils épanchaient naïvement leur confiance dans le frère aîné qui leur était en appui. Christophe avait gros cœur de penser qu'il ne connaîtrait jamais ces charmantes âmes qu'il aurait eu tant de joie à aimer. Et il baisait elle de ces lettres inconnues, comme celui qui l'avait écrite baisait les lidères de Christophe. Et chacun de son côté pensait « Cher page, que vous me faites de bien !» Ainsi se formait autour de lui, suivant le rythme habituel de l'univers, cette petite famille du génie qui se nourrit de lui et qui le nourrit, qui peu à peu s'étend, et finit par former une grande âme collective dont il est le foyer, comme un monde lumineux, une planète morale qui gravite dans l'espace, mêlant son cœur fraternel à l'harmonie des sphères. À mesure que des liens mystérieux se tissaient entre Christophe et ses amis invisibles, une révolution se faisait dans sa pensée artistique. Elle devenait plus large et plus humaine. Il ne voulait plus d'une musique qui fût un monologue, une parole pour soi seule. Encore moins une construction savante pour les seuls gens du métier. Il voulait qu'elle fût une communion avec les hommes. Il n'est d'art vital que celui qui s'unit aux autres. Jean-Sébastien Bach, dans ses pires heures d'isolement, était relié au reste de l'humanité par la foi religieuse qu'il exprimait dans son art. Handel et Mozart, par la force des choses, écrivaient pour un public et non pas pour eux seuls. Beethoven lui-même dut compter avec la foule. Cela est salutaire. Il est bon que l'humanité rappelle au génie « Qu'y a-t-il pour moi dans ton art? S'il n'y a rien, va-t'en. » À cette contrainte, le génie gagne le premier. Certes, il est de grands artistes qui n'expriment que soi, mais les plus grands de tous sont ceux dont le cœur bat pour tous. Qui veut voir Dieu vivant, face à face, doit le chercher, non dans le firmament désert de sa pensée, mais dans l'amour des hommes. Les artistes d'alors étaient loin de cet amour. Ils n'écrivaient que pour une élite vaniteuse, anarchiste, déracinée de la vie sociale, et qui mettait sa gloire à ne point partager les passions du reste des hommes, ou qui s'en faisait un jeu. La belle gloire de s'amputer de la vie pour ne pas ressembler aux autres. Que la mort les prenne donc. Nous, allons aux vivants, buvons aux mamelles de la terre, aux plus sacrés de nos races, à leur amour de la famille et du sol. Au siècle le plus libre, le jeune prince de la Renaissance italienne, Raphaël, glorifiait la maternité dans ses madones transtévérines. Qui nous fera aujourd'hui, en musique, une madone à la chaise? Qui nous fera une musique pour toutes les heures de la vie? Vous n'avez rien en France. Quand vous voulez donner des chants à votre peuple, vous en êtes réduit à démarquer la musique des maîtres allemands du passé. Tout est à faire ou à refaire dans votre art, de la base à la cime. Christophe correspondait avec Olivier, à présent installé dans une ville de province. Il tâchait de maintenir par lettre leur féconde collaboration de naguère. Il eût voulu de lui de beaux textes poétiques, associés aux pensées et aux actes de tous les jours, comme ceux qui font la substance des vieux leaders allemands de jadis. De courts fragments des livres saints ou des poèmes hindous, des odelettes religieuses ou morales, de petits tableaux de la nature, les émotions amoureuses ou familiales, la poésie des matins et des soirs et des nuits, pour les cœurs simples et saints. 4 ou 6 vers pour un lied, c'est assez. Les expressions les plus simples, pas de développement savant, pas d'harmonie raffinée. Qu'ai-je à faire de vos virtuosités d'esthète? Aimez ma vie, aidez-moi à l'aimer. Écrivez-moi les heures de France, mes grandes et petites heures. Et cherchons la phrase mélodique la plus claire. Évitons comme la peste ce langage artistique qui n'est plus que l'idiome d'une caste, comme l'est devenue la musique de tant de musiciens d'aujourd'hui. Il faut avoir le courage de parler en homme, non en artiste. Vois ce qu'ont fait nos pères. C'est du retour au langage musical de tous qu'est sorti l'art des classiques de la fin du XVIIIe siècle. Les phrases mélodiques de Gluck, des créateurs de la symphonie, des premiers maîtres du lied, sont communes et bourgeoises parfois, comparées aux phrases raffinées ou savantes de Jean-Sébastien Bach et de Rameau. C'est ce fond de terroir qui a fait la saveur et la popularité immense des grands classiques. Ils sont partis des normes musicales les plus simples, du lied, du singspiel. Ces petites fleurs de la vie quotidienne ont imprégné l'enfance d'un Mozart ou d'un Weber. Faites de même. Écrivez des chants pour tous les hommes. Là-dessus, vous élèverez ensuite des symphonies. À quoi sert de brûler les étapes? On ne commence pas la pyramide par le fait. Vos symphonies actuelles sont des têtes sans corps. Ô beaux esprits, incarnez-vous! Il faut des générations patientes de musiciens qui fraternisent avec leur peuple. On ne bâtit pas un art musical en un jour. Christophe ne limitait pas ses principes à la musique. Il engageait Olivier à les appliquer à la littérature. Les écrivains d'aujourd'hui s'évertuent, disait-il, à décrire des raretés humaines ou bien des types qui n'existent que dans des groupes anormaux, en marge de la grande société des hommes agissants et saints. Puisqu'ils se sont mis d'eux-mêmes à la porte de la vie, laisse-les et va où sont les hommes. Aux hommes de tous les jours, montre la vie de tous les jours. Elle est plus profonde et plus vaste que la mer. Le moindre d'entre nous porte en lui l'infini. L'infini est en chaque homme qui a la simplicité d'être un homme, dans l'amant, dans l'ami, dans la femme qui paye de ses douleurs la radieuse gloire du jour de l'enfantement, dans celui qui se sacrifie obscurément et dont nul ne saura rien. Il est le flot de la vie qui coule de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Écris la simple vie d'un de ces hommes simples, écrit la tranquille épopée des jours qui se succèdent, tous semblables et divers, tous fils d'une même mère, depuis le premier jour du monde. Écris-la simplement. Ne t'inquiète point des recherches subtiles où s'énerve la force des artistes d'aujourd'hui. Tu parles à tous, use du langage de tous. Il n'est de mots ni nobles ni vulgaires. Il n'est que ceux qui disent ou ne disent pas exactement ce qu'ils ont à dire. Sois tout entier dans tout ce que tu fais, pense ce que tu penses et sens ce que tu sens. Que le rythme de ton cœur emporte tes écrits. Le style, c'est l'âme. Olivier approuvait Christophe, mais il répondait avec quelque ironie, « Une telle œuvre pourrait être belle, mais elle ne parviendrait jamais à ceux qui pourraient la lire. La critique l'étoufferait en route. » « Voilà bien mon petit bourgeois français, » répliquait Christophe. « Il s'inquiète de ce que la critique pensera de son livre. Les critiques, mon garçon, ne sont là que pour enregistrer la victoire ou la défaite. Sois seulement vainqueur. Je me suis passé d'eux. Apprends à t'en passer aussi. » Mais Olivier avait appris à se passer de bien autre chose. Il se passait de l'art et de Christophe. En ce moment, il ne pensait plus qu'à Jacqueline.